Bonsoir à tous, bienvenue dans l'épisode 7 de Light. Je suis très content, encore une fois, de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait une éternité à chaque fois, mais ça fait qu'une semaine. Comme quoi, quand on a une vie où il se passe pas mal de trucs, ce qui est mon cas, j'ai cette chance, on va dire, eh bien, on a l'impression que ça fait longtemps. Bref, pour ceux qui me découvrent, moi c'est Dali, du Tilleul, j'ai 21 ans. Et actuellement, mon job, c'est de parler devant un micro. Souvent, la caméra est allumée quand je fais ça. Parce que oui, je suis créateur de contenu, même si je tends à développer évidemment plein d'autres choses. Même si, d'une autre façon, le fait d'être créateur de contenu, c'est justement la porte d'entrée à développer plein de choses à côté. Et c'est ça qui est génial et qui fait que je continue pour le moment dans cette voie qui m'épanouit tant. Bref, Light, c'est quoi ? C'est un podcast non pas pour les gens qui veulent plus dans la vie, mais surtout pour les gens qui veulent mieux. Et chaque semaine, je vous partage les découvertes, les idées, les expériences un peu qui m'ont marqué et qui pourraient vous être utiles. Parce que c'est ça, évidemment, qui est important. Même si nous ne sommes pas des ultra-utilitaristes, c'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à ce que tout ce qu'on fait dans notre vie soit utile. On accepte aussi parfois d'être oisif, on va dire. Et l'objectif, c'est que, quelle que soit la graine que tu es, tu fleurisses, comme l'a dit Atticus, cette citation que j'aime tant. Donc bref, je vous pousse à fleurir en tant qu'être humain, je vous pousse au développement, notamment par les idées, mais aussi par le corps, par l'esprit, par tous ces trucs qui sont évidemment assez liés, hein, même si Descartes disait le contraire et qu'il opposait les deux. On sait bien aujourd'hui que c'est pas le cas, et au contraire, je pense que plus on va avancer dans les recherches et plus on va prendre conscience de ces interconnexions. Par exemple, ce qu'on découvre avec les fascias, vous savez, c'est... Alors, je vais faire attention à ne pas parler d'un sujet que je ne maîtrise pas beaucoup, parce que pour le coup, c'est le cas. Mais on a quand même découvert que les fascias, en fait, c'est comme la peau. En fait, ce n'est pas une barrière, mais c'est en relation avec ton environnement. Et donc, la peau, par exemple, ce n'est pas un mur. Tu vois, c'est plus une sorte de pâte à modeler dans laquelle tu peux faire des trous, tu peux avancer, etc. Bon, les fascias, c'est un petit peu la même chose et ils sont liés à tous les organes, tout. Enfin, bref. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire qu'il y a des liens dans tous les sens. On attaque sur... j'ai vu que ça avait saturé là. Attention, je vais me calmer un peu. Beaucoup d'énergie, on est dimanche, il est 20h53. Un peu plus tard que d'habitude, mais bref. Donc, le programme, il est simple, hein, comme d'habitude. On attaque par le petit plan de semaine. On va faire un peu le récap de mon côté comme du vôtre. Ça va aller vite, ne t'inquiète pas. Ensuite, les contenus de la semaine et les 5 grandes idées. Cette semaine, je vous ai dégoté des trucs qui sont plutôt pas mal. Pour commencer, j'aimerais vous expliquer pourquoi se battre, c'est bon pour la santé. Et ici, je ne parle pas des sports de combat. Ensuite, on verra un phénomène psychologique intéressant qui s'appelle fiction lag. Il n'y a pas vraiment de traduction en français, donc bon, bref. Les trois grandes leçons, ça tombe bien, de Charlie Munger, notamment adressées pour les jeunes. En 4, je parlerai des limites de l'introspection. Et en 5, on parlera de l'importance de faire des balls immoves et de la puissance de la vulnérabilité. J'espère que ça vous chauffe. Let's go sur le plan de semaine. Demain, nous serons le 13, il faut que je corrige d'ailleurs. Nous sommes le 13 mai, le temps passe vite et on prépare la semaine, donc c'est parti. Pour commencer, les trucs que j'ai accomplis, j'ai fait 3 séances de muscu, j'avais prévu de faire 6 séances de sport, enfin, normalement c'est 4 séances de muscu, donc j'ai un peu merdé. Pas oublier que j'étais à Rome pendant 4 jours même, avec l'avion, tous ces trucs, donc bref, j'ai fait un peu comme j'ai pu et... Pour le coup, je suis assez content. Juste aujourd'hui, j'aurais dû aller taper un running de 10 km. J'ai un peu eu la flemme et j'avais un peu mal à la tête. Mais bref, j'ai quand même fait 50 km de marche sur la semaine. De base, j'ai prévu de faire 6 séances de muscu toutes les semaines. Là, je suis à 6 séances de sport, pardon. Là, je suis à 3 séances de sport plus plein de marches. 10 km par jour facile quasiment, mais c'est pas vraiment. Enfin, c'est des séances de sport, mais ça manque un peu d'intensité. Bref, j'ai lu et résumé un livre, c'était « Comment vivre » de Sarah, je sais plus quoi, à propos de Montaigne. J'ai fait un sauna, j'ai tourné la vidéo 24 heures, mon avis d'un prêtre, qui sortira je pense la fin de semaine pro. J'ai rencontré Stéphane, un mec hyper stylé à Rome, que j'ai vraiment kiffé. Petite invitation à un TEDx, ça fait plaisir, ça va être un bel exercice auquel j'ai hâte de me prêter, de me confronter, parce qu'à la prise de parole en public, Je sais que c'est une des... Je crois que parmi les 5 plus grandes peurs qui reviennent dans le... quand on demande aux gens c'est quoi qui leur fait flipper, la prise de parole en public arrive 3e. Donc voilà, c'est bien, on va pouvoir titiller ce truc. Même si je pense que naturellement, ça va, je suis assez à l'aise à l'oral et en public. Là, c'est une conf quand même, avec des gens, c'est filmé et tout, donc forcément, il y aura de la pression. Mais ça sera dans quelques temps. Ensuite, pour être transparent, j'ai signé une collaboration avec Opéra, le navigateur, à 2 500 €, ce qui est plutôt cool pour une vidéo courte, TikTok et YouTube Short. Donc voilà. Et une vidéo aussi, alors j'ai pas encore signé le contrat, donc j'ai pas envie peut-être d'en parler, mais avec la Société Générale, autour d'un événement qui va sponsoriser sur le rugby. Je devrais aller tourner ça le 31 mai. Et là, on est sur un budget qui est aux alentours de 10 000 €, pour être très transparent avec vous. Et donc, c'est plutôt cool. C'est plutôt très cool. Ensuite, j'ai posté 5 vidéos courtes, une newsletter, et j'ai regardé aujourd'hui, parce que c'était dimanche, Les Infiltrés. Un film réalisé par Martin Scorsese, si je ne me trompe pas, et avec DiCaprio. Franchement, c'était pas mal. Bref, amélioration, élimination, j'ai rien trouvé pour cette semaine, donc tant pis, on passe. Temps d'écran 2h07 avec 1h38 d'Insta, c'est pas mal, on a bien baissé. Et le plan de semaine, il est encore le même quasiment, c'est de poster 5 vidéos courtes, c'est de lire un livre, le résumé, poster une vidéo YouTube, là ça fait 2 semaines d'affilée, je dis que je vais faire une vidéo YouTube, mais je le fais pas. Avoir les 6 séances de sport, bon, en tout cas, suivre le programme de sport, et c'est déjà pas mal. Cette semaine, c'est cool, j'ai rien de prévu. Mon emploi du temps, enfin mon agenda est vide, à part à 11h demain, j'ai un call, c'est une sorte de coaching avec Anthony, peut-être qu'il écoute ce podcast. Il m'a envoyé un mail pour savoir si c'était possible, donc voilà, je lui ai dit que c'était ok. C'est un coaching qui est payant, pour encore une fois être très transparent et tout dire, c'est 100 € les 30 minutes. Alors, enfin, moi je fais pas ça de base et je mets pas à disposition ça, mais c'est lui qui m'a demandé, donc je me suis dit vas-y, let's go, pourquoi pas, ça me fait plaisir, et sincèrement je le fais pas pour l'argent, je le fais juste plus pour le kiff, même si évidemment je suis conscient que 100 € 30 minutes c'est très bien payé, c'est très bien payé, on va pas se mentir. Il y en a certains qui diraient que ça allait pas tant que ça, mais moi je suis quand même conscient que c'est pas. Donc bref, à part ça, j'ai rien de prévu, c'est juste vendredi, je pars en une sorte de retraite, un peu pendant une semaine avec des potes, ça va être mi-spiritualité, mi-je sais pas quoi. Bref, on verra bien, ça va être cool, j'ai hâte de faire ça. Ensuite, c'est tout, hein. On peut directement passer sur les contenus de la semaine et arriver sur le truc de... Enfin, sur les 5 grandes idées, là où se trouve le nectar du podcast, sûrement ce que vous aimez le plus. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire des feedbacks, moi ça me fait toujours très plaisir. J'ai dit ça, mais je lis assez peu mes DM Insta, donc si vraiment vous voulez faire un truc cool et tout, bah, n'hésitez pas à lâcher une note ou à m'envoyer un mail. Si vous m'envoyez un mail, encore une fois, 80% de chances que je réponde, dailydutilleur@gmail.com, balancez. Alors, sur le contenu de la semaine, donc il y a 5 vidéos courtes, c'est plutôt pas mal. Sur les stats, on est un peu en dessous d'habitude, mais bon, ça reste correct. Et j'ai fait un post LinkedIn aussi qui a pas mal fait réagir. Bref, d'ailleurs, je voulais en parler, mais je ne l'ai pas mis dans les 5 grandes idées. Bon, vas-y, je pourrais faire un petit bonus sur ça, si vous voulez, ça peut être intéressant. Bonus post LinkedIn, j'en reparlerai, parce que ça a suscité beaucoup de débats. Donc bref, je me suis un peu fait éteindre d'ailleurs en commentaire, mais j'aimerais bien y répondre, mais c'est un peu galère LinkedIn, parce que bref. Et c'est à peu près tout. Ok, bon bah c'est parti. Pourquoi se battre, c'est bon pour la santé, et pourquoi est-ce qu'on parle pas des sports de combat? Alors, Henri Laborie. Alors, ça commence à la Dali, comme certains diraient. Et d'ailleurs, c'est marrant, on me fait souvent la remarque comme quoi, quand on me rencontre dans la vie, c'est marrant le décalage par rapport à mes vidéos, parce que je suis hyper énergique. Enfin, voilà quoi. Moi, dès que la cam, elle est allumée, ça y est, ça envoie. Je sais pas si c'est pareil avec le podcast, j'ai pas l'impression. Je pense que c'est plus représentatif de la personne que je suis, et normal, mais bref. Henri Laborie, donc, c'est un neurobiologiste français qui a mené une étude sur le sujet qui est passionnante, vous allez voir. En gros, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un rat et il le met dans une cage qui est séparée en deux par une cloison et où, en fait, entre cette cloison, il y a une porte. Donc, une porte qui est ouverte où le rat peut passer de la cloison à l'autre. Ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un signal sonore et un flash lumineux et 4 secondes plus tard, il y a une décharge électrique qui est envoyée dans le plancher. En gros, on envoie dans le plancher, mais seulement d'un côté, pas des deux, une décharge électrique. Et au début, bon bah voilà, c'est le premier, il sait pas pourquoi il y a le flash lumineux et tout, la souris, enfin le rat, se prend la décharge. Puis très vite, il comprend que bon bah quand il y a un signal, ça veut dire qu'il va se prendre une décharge, donc faut qu'il passe de l'autre côté. Et c'est ce qu'il fait. Il comprend très vite que bah pour éviter la punition, faut passer la porte. Au bout de 7 jours, parce qu'on l'a fait, on fait cette expérience donc pendant 7 jours, 10 minutes par jour, on se rend compte que le rat qui a pu fuir cette punition, il est en excellente santé. Donc Henri Laboury, il se dit ok, continuons l'étude et voyons voir si on change 2-3 trucs. Ce qui change, c'est que cette fois, la porte entre les deux côtés, elle est fermée. Et donc, le rat, il ne peut plus fuir. Et cette fois, il subit les punitions. Résultat, on se rend compte qu'au bout de 7 jours, le rat, il a perdu du poids. Il a une hypertension artérielle qui est élevée. Il va développer dans les semaines qui vont suivre des maladies, genre dépression, eczéma, enfin tout ce genre de trucs. On se rend compte que quand le rat, il ne peut pas échapper à la punition, qu'il prend la décharge électrique, ça ne va pas du tout. Maintenant, c'est là où ça devient le plus intéressant, on reprend un rat, et de nouveau, on laisse la porte fermée, mais cette fois, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute dans le même endroit un deuxième rat. Et là, on se rend compte que dès que la punition elle est envoyée, donc il y a la décharge électrique, les deux rats, ils ne peuvent pas se fuir, etc., parce que la porte, elle est fermée, mais donc, ils vont se battre. Et c'est extrêmement intéressant, on se rend compte qu'au bout de 7 jours, il s'avère que les deux rats sont en excellente santé, car même s'ils ont subi la décharge, ils ont pu agir. Et la conclusion de l'étude, c'est que l'animal qui peut réagir par la fuite ou par la lutte ne développe pas de troubles organiques. En revanche, celui qui ne peut ni fuir ni lutter se trouve en inhibition de son action et va présenter de graves perturbations pathologiques. Et bah, c'est évident, il en est de même pour l'être humain. Celui qui se retrouve coincé, enfermé dans une situation sans issue et qui ne peut ni réagir par la fuite, par l'attaque, va avoir des symptômes plus ou moins importants sur son état de santé. Et oui, parce que si tu ne peux pas décharger ton agressivité sur autrui, elle va se décharger sur toi-même. Et donc, tu vas tomber malade, tu peux avoir des problèmes, etc. Et c'est ce qu'il dit Henri Laboury, c'est qu'un système nerveux, il sert à agir. Et donc, il doit agir, sinon il dépérit et entraîne des maladies psychiques ou physiques. Quand on subit une agression, en général, il y a trois options qui s'offrent à nous. Soit se révolter, donc se combattre, en gros, soit ne rien faire, ou fuir. Et pour Henri Laboury, le seul choix raisonnable est la fuite qu'il expose dans son célèbre essai « L'éloge de la fuite ». Bref, ça, c'est vraiment très très intéressant et on peut évidemment faire pas mal de parallèles dans notre quotidien. Perso, je suis un petit peu de la team à ne pas montrer beaucoup mes émotions et à intérioriser plein de trucs. Je sais que quand j'étais petit, j'ai vécu des trucs et tout, et ça m'est arrivé souvent, par exemple, de pleurer. Et très vite, j'ai compris que c'était un peu la loose de pleurer souvent, etc. Donc, j'ai créé un peu une carapace en mode « Vas-y, maintenant, c'est bon, je pleure plus et tout. » Et je crois, d'ailleurs, j'en suis même pas fier, quoi. Ça fait plus de 5-6 ans que j'ai pas pleuré, quoi. Enfin, tellement j'ai décidé maintenant de ne pas montrer mes émotions et de tout prendre à l'intérieur, etc. Et ça, comme on le voit, en fait, c'est pas spécialement bon. Parce qu'il faut, pour le système nerveux, se décharger régulièrement de toutes les émotions, de toutes les choses qu'on accumule. Et c'est pour ça que quand, par exemple, on va au supermarché et qu'il y a des gens, ils font la queue depuis longtemps, etc., et il y a quelqu'un qui commence à s'énerver, eh bien, il y a tout le monde très vite qui va prendre le relais en mode vas-y, toi, arrête de t'énerver là, machin, on est tous pareils, etc. Et parce qu'en fait, les gens font ça de manière instinctive parce qu'ils en ont besoin. En fait, ils ont besoin de se libérer, ils ont besoin d'extérioriser ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Et c'est tant mieux parce que souvent, ça leur fait beaucoup de bien. Et c'est pour ça que le sport, en fait, c'est un cheat code aussi à ce point-là parce que ça permet vraiment de libérer toutes ces tensions, toute cette accumulation qu'on a eue dans la journée. Pareil, quand on voit que les gens, ils s'énervent beaucoup au volant, etc., c'est parce qu'ils se permettent enfin de se libérer un petit peu. Il y a une thérapie qui est assez peu connue en France, qu'on appelle le cri primal, qui a été inventée par le psychologue Arthur Janov, qui consiste en gros à expulser un peu l'ensemble des émotions, des affects et tout, au travers d'un énorme cri. Et c'est un petit peu la même chose que toi, on t'enferme dans un endroit, si tu peux crier parce que t'as mal et tu peux, etc., c'est sûr et certain que ça va te soulager. C'est ce que montre un petit peu cette thérapie. D'ailleurs, c'est marrant, quand j'étais à la muscu samedi, là, au bout d'un moment, j'ai poussé un cri énorme parce que j'étais sous la barre dernière rep et tout machin. Et en fait, ça m'a aidé. Ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis d'avoir plus de force. Et aussi, il y a une sensation de bien-être quand on fait ça qui est assez incompréhensible. Donc bref, je trouve que c'est très intéressant de parler de ça et de comprendre que nous sommes des humains, nous ressentons plein de choses, même si c'est pas parce que tu ne ressens pas que ça ne se passe pas. Ça, il faut bien le comprendre, et c'est notamment parce qu'on a un problème aujourd'hui de conscience. Tu peux, par exemple, dans un combat de MMA, parce que tu es sous adrénaline, te fracturer un membre, mais ne pas le sentir tout de suite, parce que tu n'es pas encore conscient. Et parce que évidemment il y a l'adrénaline qui va inhiber la réaction, etc. Mais bref, dans la vie c'est pareil, et les gens ils vivent un peu en mode automatique, ils sont pas vraiment conscients de leur corps, ils sont pas dans le moment présent, etc. Mais pour autant, bah, il se passe des choses en eux que des fois ils ne comprennent pas. Et c'est pourquoi c'est vraiment très très important. Et par exemple, la cigarette, c'est ce que fait pour beaucoup de personnes de manière artificielle ce rôle aussi en fait. C'est une libération un petit peu du stress, de manière encore une fois chimique, mais voilà. Et c'est une des raisons aussi qui explique que bah, quand les gens sont stressés, souvent ils ont tendance à fumer. Et le stress, c'est peut-être un des trucs qui nous tue le plus aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut, s'en libérer en fait, il faut l'extérioriser, c'est très important, et c'est pour ça que le sport de combat aussi c'est une folie. Je me souviens quand j'avais fait une initiation self-défense, durant mon stage de naturopathie, on me disait un truc, c'est que quand vous tombez par terre, pensez bien à taper le sol après, pour envoyer un petit peu la décharge, et pas que le coup et le choc reste dans votre corps, mais que vous puissiez le sortir quand t'arrives, tu tapes, et ça ferait que ça faisait beaucoup de bien. Donc n'ayez pas peur d'extérioriser ces trucs, et au contraire, faites-le, parce que sinon, vous allez accumuler des choses dans votre corps, etc. Et moi, je pense, même si évidemment ça relève que de l'opinion, que bah au bout d'un moment c'est ça aussi, même s'il n'y a pas que ça évidemment, qui va créer des cancers et tout ce genre de trucs. Passons à l'idée numéro 2, mais avant ça je vais boire un petit peu d'eau. Ah, ça fait beaucoup de bien. Alors deuxième idée, c'est le concept de fiction lag. J'en ai fait une vidéo sur le sujet, mais je ne l'ai pas encore sorti. Quoique, je ne sais pas, j'ai un petit doute. Bref, le hook que j'ai pris, c'est que, je vous le fais comme ça, vous allez être, elle est hook aussi, c'est que la qualité de ton caca, elle est déterminée par ce que tu as mangé. Ce n'est pas le meilleur hook, c'est un bon hook parce qu'il y a écrit caca, mais sinon, ça ne suscite pas trop de curiosité que ça. Maintenant, la qualité de tes outputs, donc, c'est-à-dire ce que tu penses, ce que tu fais, etc., eh bien, elle est déterminée par les qualités de tes inputs, en gros, ce qui rentre dans ton cerveau. C'est logique, c'est comme, c'est comme une machine, tu fais rentrer quelque chose à l'intérieur, ce qui a rentré dedans va être déterminant pour ce qui va en sortir. Et je trouve que le système digestif, c'est une bonne métaphore pour illustrer ça. Maintenant, les réseaux, aujourd'hui, c'est pas juste des vidéos comme ça qui t'amusent, etc., mais c'est devenu, pour la plupart des gens, les inputs qu'ils reçoivent en permanence et qui déterminent les outputs. Et c'est exactement ce que j'essayais de transmettre avec la musique. C'est qu'en fait, la musique, c'est un input. Et les paroles de rap qu'on peut écouter, souvent, c'est un input de manière inconsciente, dont on ne se rend pas compte, mais qui a quand même un petit peu d'impact sur nous. Et bref, tout ça pour dire qu'il y a un phénomène donc, psychologique qui s'appelle le fiction lag et qui met en évidence que, en gros, et il y a des études à l'appui qui le prouvent, que lorsque les gens sont captivés par une œuvre de fiction, ils adoptent inconsciemment les traits de leur personnage préféré. Et en gros, ce qui se passe, c'est que nous développons notre identité en copiant les autres. Et l'une des raisons pour lesquelles nous apprécions la fiction, c'est peut-être qu'elle nous donne des idées sur qui être et sur qui devenir. Si Inobstag, aujourd'hui, il fait l'Everest, c'est en partie parce que depuis qu'il est petit, il regarde des shonen comme One Piece, Naruto, dans lesquels on prône notamment, et en grande partie, le dépassement de soi. C'est pareil pour un de mes amis qui s'appelle Fares Le Paf, peut-être que vous connaissez sur les réseaux, qui est fan de manga et notamment de shonen. En gros, les shonen, si j'ai bien compris, je suis pas un expert, mais c'est des animés où on suit un peu le chemin, le parcours du héros, d'un personnage qui a décidé d'atteindre un objectif, un but, etc. Et donc, dans ces shonen, on voit bien que ça travaille beaucoup, ça essaye de vaincre ses peurs, d'atteindre ses objectifs, etc. Et que ça soit Fares ou Inox, c'est des gens qui, dans leur vie, essayent de reproduire exactement la même chose. Et ça, ce qui est cool, c'est qu'une fois qu'on en a conscience et qu'on se rend compte que ça a vraiment de l'impact, on peut agir en conséquence. Par exemple, quand je regarde et que je choisis un film, mais je pense qu'on le fait aussi de manière inconsciente, hein, on a tendance à le choisir en fonction de ça aussi. Par exemple, quand tu décides de regarder Peaky Blinders, donc la série sur les c'est quoi, c'est des comment on pourrait dire ça. Bon bref, c'est des mecs, c'est des gangsters. Voilà, c'est des gangsters. Quand tu regardes cette série, inconsciemment, tu as envie à chaque épisode de ressembler et d'être un peu plus dans la tête de Thomas Shelby pour être un peu plus charismatique. Pour voir, ok, comment il se comporte là à ce moment-là, ok, comment il parle avec les gens, comment il fume sa clope, comment il s'habille, machin, bref, tous ces trucs. Parce que, en fait, il envoie une projection que tu apprécies, notamment pour les mecs qui comprendront mieux peut-être cet exemple. Et donc, tu continues de regarder ça, et dans ton quotidien, même si tu vas le faire sûrement avec beaucoup plus, avec beaucoup moins d'aisance, etc., et plus de timidité, et de. Tu seras plus réfractaire, on va dire, tu vas quand même tendre à montrer ça et à l'utiliser. Et ce qui est bien aujourd'hui, ce qui est même excellent, c'est que tu peux choisir tes inputs. Et moi, c'est ce que je fais au quotidien. J'ai vraiment, un moment, j'ai pété les plombs. J'avais carrément arrêté de suivre tout le monde sur les réseaux, sur Insta, etc. J'avais juste YouTube où je suivais telle personne, machin, que j'avais choisi scrupuleusement pour faire en sorte que cet impact soit celui que j'ai choisi dans ma vie, etc. Et ça marchait super bien. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, mes 5 meilleurs potes, la moyenne des 5 personnes que j'étais, c'était devenu mes 5 YouTubeurs préférés. Parce que j'avais du mal dans mon quotidien à m'identifier à ce que je voulais devenir être, d'une certaine manière. Et donc, grâce à Internet, j'ai pu aller trouver ces inspirations ailleurs. Et aujourd'hui, c'est encore ce que je fais. C'est vraiment encore ce que je fais et je vois à quel point ça a de l'influence et de l'impact de manière positive sur moi. Donc vraiment, choisissez très très bien vos inputs, c'est important parce que vous le voyez, on va avoir inconsciemment tendance à vouloir copier leurs traits de caractère. Et c'est normal, c'est comme ça que fonctionne l'humain. Et c'est pour ça que le principe d'exemplarité autour de soi, il est aussi important. Parce que si, en fait, dans ton quotidien, tu montres de manière explicite que tu es quelqu'un de stylé, dans le sens où tu te sens bien, t'es épanoui, etc. Mais forcément, on va vouloir petit à petit copier des actions que t'as mises en place, par exemple. Et ça, c'est extrêmement important. Troisième idée. Let's go sur les leçons de Charlie Munger pour les jeunes. Alors ça va être assez court. C'est extrait de son livre L'Almanach. D'ailleurs, je suis pas sûr de cette anecdote, mais ce livre, il coûte 100 euros. L'almanach de Charlie Munger. J'avais vu qu'il coûtait 100 euros. Pour Charlie Munger. Voilà, putain, il coûte 105 balles. Comment c'est possible? C'est énorme. Pourtant, je crois que mon pote, il l'a pas acheté aussi cher. Mais bon, bref. Pour Charlie's Almanach. Bref, ouais, il coûte 100 euros à ce type. Et donc, vous avez de la chance. Je vous ai hook avec le input biais. Enfin, comme quoi, il y a des efforts, etc. Vous avez de la chance. J'ai un screenshot d'une page. La question c'est what should a young person look for in career? Qu'est-ce qu'un jeune devrait rechercher dans une carrière? Et il dit, bon, moi j'ai trois règles un petit peu basiques qui sont quasiment impossibles à respecter tout le temps, mais dans tous les cas, tu devrais essayer. Et la première chose, c'est de ne pas vendre quelque chose que tu n'achèterais pas toi-même. Deuxième principe, ne travaille pas pour quelqu'un que tu ne respectes pas et que tu n'admires pas. Et troisième chose, travaille seulement avec des personnes que tu aimes. Ça, je trouve que c'est des principes qui sont assez simples, mais tellement fondamentaux qu'il ne faut vraiment pas les oublier, et peut-être même les répéter. Donc, premier principe, ne vends pas quelque chose que tu n'achèterais pas toi-même. C'est fou le nombre de personnes qui font ça ou qui petit à petit se convainquent que, bon, en vrai, ok, ça va, vas-y, vendre des cigarettes, c'est cool, machin. Bon, évidemment, hein, il y a plein de conditions, il y a plein de trucs qui font que des fois on n'a pas vraiment le choix, ou en tout cas c'est plus difficile, etc. Et je comprends totalement, mais bref. Deuxième chose, ne travaille pas pour quelqu'un que tu ne respectes pas et que tu n'admires pas. D'où l'importance, et ça, c'est ce que j'aime vraiment beaucoup chez Théolion, c'est qu'il prône cette idée d'entrepreneur dans le sens où en fait tu te scales toi-même pour scale ta boîte. Et si tu aujourd'hui t'as pas les résultats, en tout cas dans le milieu de l'entrepreneuriat, et ça vaut pour plein d'autres milieux évidemment, si t'as pas les résultats aujourd'hui que tu souhaites obtenir, c'est tout simplement parce que toi en fait t'as pas atteint ce niveau. Toi t'as pas enfin t'es pas encore tout en haut, et donc t'as pas encore ces résultats. Mais c'est OK, et c'est justement ça qui est génial. Et en même temps, il y a cette idée et cette envie de montrer aux autres que bah regardez, en fait moi je me la bute, moi je me défonce pour aller vers cette progression constante qui va d'une me tirer profit et qui en plus va servir l'entreprise. Et ça c'est très très important. Et ensuite la dernière chose, c'est de travailler seulement avec des gens qu'on apprécie. C'est évident, je pense que c'est la base de toute collaboration, de toute amitié, parce que bah sans ça, ça ne peut juste pas marcher. Quatrième idée, elle a été rapide celle-là, mais c'est pas grave, les limites de l'introspection. Alors ça nous vient de notre ami Pierre Dufraisse, qui est un de mes mentors pour moi et qui fait partie évidemment de ces inputs que j'ai au quotidien. D'ailleurs, moi j'ai un bon système aujourd'hui d'input de qualité qui est vraiment très très agréable, avec pas mal de newsletters sympas sur Substack, avec des youtubeurs qui sont cool. Sur Insta, je suis pas mal de gens que je trouve intéressants, bref, même au quotidien, etc. J'ai vraiment fait en sorte d'avoir de plus en plus d'inputs de qualité. Et d'ailleurs, je pense à ça, parce que j'y ai été invité. Je suis pas payé pour faire ça, hein, pas du tout, mais il y a le festival c'est le congrès maintenant, ils l'ont appelé le congrès du potentiel humain, où il y aura bah, ce fameux Pierre Dufraisse, où il y aura bref que des gens incroyables. Venez. Il me semble qu'il reste encore des places. Donc, si vous voulez, vous regardez sur Internet Congrès du potentiel humain. C'est le 8-9 juin. On pourra se retrouver là-bas. Alors, je vous le dis tout de suite, ça coûte 450 euros pour les 2 jours. Donc, voilà, il faut être prêt. Mais sachez qu'il y aura un avant et un après ce stage. Je peux vous le garantir. Il y aura, par exemple, Steph Gentis, qui est un prof de méditation, qui est bah, le gars qui m'a permis de connecter avec Tristan Defeuillet, qui est un mec extraordinaire, enfin bref. Voilà, en fait, au bout d'un moment, quand tu baignes dans cet environnement, tu ne peux pas te dire que t'as pas envie de leur ressembler, d'aller dans cette direction, et que, enfin, en fait, tu le vois, les mecs, ils sont, genre, moi, en tout cas, ça m'inspire beaucoup, genre, ces mecs, corps de ouf, donc très solide physiquement, bonne santé, ça pète la forme, ça envoie. Ça lit toute la journée à gogo et ça philosophe dans tous les sens. Ensuite, ça c'est rigolé, c'est léger, ça regarde des mangas. Enfin bref, il y a des combos comme ça qui sont dingues. Et ça a une liberté très 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 forte et une ouverture aussi qui est stylée. Il y aura aussi Pierre Etchart qui donne des cours notamment de physique quantique qui m'a initié à ça. Enfin bref, très très intéressant. Pareil, c'est une tête. Bref, venez, venez, franchement, si je vous fais ce call to action un peu plus prononcé, c'est pas pour rien, c'est parce que sincèrement, je pense que ça peut vous faire pas mal de trucs. Et pour que ceux qui se demandent, c'est à côté de Nîmes. Donc voilà, on peut aller se rencontrer là-bas. Ok, donc bref, il a fait une newsletter, mon bel ami Pierre, sur l'introspection, et j'ai trouvé ça génial parce qu'il parlait un petit peu de ses limites. En gros, c'est une intuition que j'ai eue, mais j'avais jamais su mettre des mots sur ça, et lui, il l'a fait parfaitement. Donc je vais vous lire un peu le truc. L'introspection, c'est inviter des convives à sa table après avoir dressé cette dernière. Apporter les plats après les avoir goûtés pour être sûr de leur saveur, mais s'arrêter là. Tout le monde est assis devant la nourriture, mais le repas ne commence jamais. L'introspection est un travail fondamental dans le sens premier du terme. Elle est le temps de préparation, sage et minutieux, l'élan. Mais qui doit trouver son accomplissement dans le saut final? La confrontation avec le monde, c'est-à-dire l'expérimentation. Comment un chef sait que sa cuisine est réussie quand ses clients mangent ses mets et lui font des retours? C'est vrai que l'introspection, c'est quelque chose d'important, apprendre à se connaître, développer des idées, des théories, des connaissances. C'est vraiment très très important. Mais il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui se cantonnent à ce moment et qui, derrière, ne le mettent pas en relation avec les autres. Et pourtant, c'est une phase qui est, bah, comme le dit mon ami Pierre, fondamentale et qui fait partie de son accomplissement. Parce qu'il faut la mettre en relation, il faut la confronter pour voir à quel point est-ce que ce que vous avez développé, ce que vous pensez être cohérent, l'est avec le réel. C'est fou, hein, le nombre de personnes qui ont des bonnes idées de business, de trucs qui paraissent certainement génial, mais pourtant, qui, une fois qu'ils le mettent sur le marché, qu'ils essayent, etc., ça ne marche pas. J'écoutais là l'interview entre Yomi et le fondateur de BlaBlaCar qui disait que quand lui, il a l'idée, donc de BlaBlaCar, qui est quand même une idée à plusieurs milliards, au début, déjà, il ne dort pas pour les 72 premières heures. Et ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il commence à avoir une vision très claire. Il faut que ça soit facile, que les gens comprennent rapidement c'est quoi ton idée et qu'elle soit de plus en plus précise et concrète. Et ensuite, il la met en relation avec les gens. Il leur en parle, il leur demande qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. pour pouvoir l'affiner et pouvoir, quand il va la présenter au marché, avoir une version qui est déjà évoluée un petit peu. Et c'est pour ça que moi, j'aime tant aussi faire des vidéos. Et parce que quand j'ai une idée, quand j'ai l'impression d'avoir découvert un truc intéressant, etc., d'une part, je dois avoir ce travail de vulgarisation, hein, bon, qui vient du latin vulgate, qui n'est pas très joli, mais bon, bref. C'est primordial. Et justement, moi, j'aime ce truc. Quand là, je fais un post sur LinkedIn où, clairement, je me casse un peu la gueule parce que je dis un truc qui a un raisonnement premier qui est marrant et on se dit « Ah, stylé, etc. » Mais on se rend compte que, bon, bah voilà, moi, je vous en parlerai après, mais mon post, il fait quoi ? Il fait 18 000 impressions avec 80 likes, un commentaire en dessous, 190 likes. Bref, je prends un ratio d'un mec qui me corrige et qui dit « Ouais, ce que tu dis, c'est de la merde. » Et donc, si moi, je ne fais pas ce post sur LinkedIn, certes, il y a ce petit sentiment au début de honte où on se dit ah, « Merde, je passe pour un gogol, etc. » Mais moi, ça, plus j'avance et plus je m'en fous complètement. Et d'ailleurs, et ce sera le point numéro 5, vous verrez à quel point c'est puissant ce détachement et cette capacité à sortir un petit peu de l'étiquette qu'on a, de se détacher de plus en plus du regard des autres, de l'ego, etc. C'est trop puissant. Et j'ai l'impression d'avancer dans un mode où je suis capable de contrôler, enfin, j'accueille mes émotions, ce que ça procure chez moi, etc. Et ensuite, j'arrive un peu à les contrôler. Et ça, c'est puissant. C'est vraiment très, très puissant. Donc, bref. Les vidéos, c'est génial parce que ça permet de mettre en relation, etc. Et c'est à un moment ce que j'ai perdu quand j'étais dans... Bah, en fait, pendant le confinement, c'est ce que j'ai perdu. Et c'est justement pour cette raison que j'ai eu envie aussi, mais de manière beaucoup plus inconsciente, de faire des vidéos pour confronter ce que je pensais et pour partager à quel point ça avait changé ma vie et pour voir si ça pouvait être le cas avec d'autres personnes ou pas du tout, etc. Et donc, moi, je trouve que le modèle dans lequel on vit aujourd'hui, il est magnifique pour ça. Et il récompense pas les gens uniquement qui ont des bonnes idées et qui savent philosopher, mais aussi ceux qui savent passer à l'action. Et donc, c'est bien d'avoir des phases d'introspection, etc. Mais ensuite, il faut aller en parler avec vos amis, il faut en parler avec vos proches, il faut en parler sur Internet, il faut voir ce que ça vaut, quoi. Qu'est-ce que ça a dans le bide, à quel point c'est pertinent, etc. Et c'est justement pour cette raison que moi, par exemple, j'adore et j'aimerais beaucoup participer à des débats. Parce que, en fait, c'est cool de développer des opinions, de dire des trucs et d'avoir les gens de ta troupe, là, on voit notamment dans les partis politiques, qui sont évidemment déjà convaincus de ce que tu dis, qui commentent et qui disent « Ah, c'est bien, machin, etc. » Mais il se passe quoi quand on le confronte avec quelqu'un qui ne pense pas du tout la même chose ? Est-ce que tu es solide ? Est-ce que tu es capable d'avoir des arguments sur lesquels tu peux t'appuyer et auxquels tu peux répondre ? C'est ça qui est intéressant. C'est ça, vraiment, qui va montrer à quel point est-ce que tu es pertinent ou pas. Et je vois exactement la même chose avec l'introspection. Donc c'est cool, apprenez vraiment à vous connaître, soyez beaucoup plus dans l'écoute, dans la recherche, dans le questionnement, dans l'ouverture, etc., bien sûr. Mais ensuite, n'oubliez pas cette phase fondamentale qui est l'expérimentation et qui est la mise en relation et en lien avec le monde. Et ça se fait notamment par l'intermédiaire des autres. Et c'est pour ça que c'est aussi important de cultiver des relations et de rester en interaction avec ce monde, je pense. S'il y a des gens qui décident de quitter le jeu et d'aller vivre dans des cabanes, moi, perso, je trouve que c'est d'une certaine manière une façon d'esquiver la vie et de ce qu'elle est devenue. Et je trouve que c'est dommage. Cinquième idée, on va parler des ballsy moves et de la vulnérabilité, parce que mine de rien, j'en ai fait pas mal cette semaine. Je me suis un peu chauffé à faire des trucs, des trucs sympas. En gros, j'en ai fait trois. Le premier, c'était à Rome, où en gros, on était en train de discuter avec Thomas, qui était le caméraman qui m'a accompagné pour ces 3-4 jours. D'ailleurs, c'était trop bien. Et encore une fois, ça c'est cool parce que Thomas, c'est pas le genre de personne que normalement je côtoie. Et là, j'ai appris à vivre avec quelqu'un avec qui j'ai pas mal de différences, etc. Et c'est trop bien en fait. C'est vraiment trop bien. Et il y avait aussi Stéphane, donc gars que j'ai rencontré à Rome, qui fait des vidéos d'ailleurs sur Internet et qui est vraiment très très cool. Et au moment où il disait, à un moment il a dit, ouais, tu vois, tu peux aller voir cette fille là-bas, tu lui fais faire un tour sur elle-même, et voilà, il va se passer, mon gars, à l'échelle de l'univers, on s'en fout complètement, etc. Et donc je me suis dit, vas-y, je vais le faire. Et de base, il ne disait pas ça pour que je le fasse, mais c'est juste ça a titillé quelque chose en moi. Et quand c'est comme ça, la première réaction, c'est, et on l'entend bien, hein, cette voix, elle me dit, ok, non, vas-y, fais pas ça, c'est bizarre, on s'en fout, t'as besoin de rien prouver, machin, bon, bref. Donc moi, maintenant, quand c'est comme ça, j'écoute un peu mes pensées, j'essaye de comprendre, ok, je sais que c'est des pensées, machin, mais en fait, c'est de la merde. Enfin, c'est juste des pensées qui sont là, c'est une machine à excuses, ça y est, c'est parti. Je les écoute, je les accepte, mais je sais qu'au fond, je me raconte une histoire, et donc j'y vais, je vais le faire, la meuf rigole et tout, et c'est trop. Et donc, let's go, point de kiff et de confiance gagné, c'est plaisir. Ensuite, deuxième chose, alors là, vraiment, c'est un truc qui m'a pris, je sais pas pourquoi, bref, je suis dans l'avion, et j'ai une place chelou juste à côté des portes de sortie de secours, je crois qu'ils sont au milieu, et donc c'est l'endroit où s'assoit l'hôtesse. Pour l'atterrissage et le décollage, l'hôtesse, elle doit s'asseoir à cet endroit. Et il se trouve qu'elle est pile en face de moi et qu'on a les pieds un peu serrés. Quand on les touche, ils se touchent pas, mais ils sont serrés. Et donc, moi, je me dis, vas-y, mec. Alors, il faut savoir que la fille ne me plaît pas. Hein. L'hôtesse, c'est pas spécialement jolie. Pas du tout. Enfin, voilà. Et je me dis, vas-y, fais-lui du pied. Alors, je sais, c'est complètement débile, mais je me dis, vas-y, fais-lui du pied. Et là, j'écoute mes pensées, j'écoute mon cerveau, il me dit, non, vas-y, gros, tu vas pas faire ça. En plus, elle te plaît pas, et vas-y, c'est giga gênant, et machin. Donc là, bref, j'ai tout ce discours, tout ce truc, je l'écoute, je dis, ok, machin. Et en vrai, pourquoi je le ferais pas? Enfin, pourquoi je le fais pas? Qu'est-ce qui se passe si je le fais, etc. Et très vite, je me rends compte que si je suis honnête envers moi-même, il se passe rien et qu'il faut que je le fasse, tu vois. Donc, vas-y, let's go. J'ose pas, mais je commence à rapprocher un peu mon pied et tout. Et là, je lève ma semelle et je marche dessus. Mais c'est pas genre du pied en mode sexy, tu vois, je marche un peu dessus. Et là, je vois, elle fait un regard, elle lève les yeux, elle me regarde. Et là, moi, je perds un peu mes couilles et je dis, oh, pardon. Bon, bref. Mission accomplie quand même, j'étais content. Et là, c'est marrant, mon cerveau, il s'arrête jamais. Il m'a dit, ok, pourquoi est-ce que tu le referais pas? Et là, je me suis dit, putain, c'est vrai, il a raison. Genre, en vrai, je peux le refaire, ça ferait rien encore. Hein. Mais bon, bref, je ne l'ai pas fait, parce que là, c'est encore un niveau un peu au-dessus, je suis encore en phase d'entraînement. Bref, bon défi réussi. Autre truc que j'ai fait, c'était hier. J'étais dans le tram et j'ai vu un mec qui était là, qui attendait, avec sa pochette d'ordi, et je lui ai dit, bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez m'apprendre quelque chose? Bref, au début, il n'a pas capté, il a trouvé ça bizarre, mais au final, on a parlé, c'était bien. Et il s'avère que ce monsieur, ça fait 8 mois qu'il est au chômage, qu'il cherche des tafs et tout. Donc, son histoire m'a beaucoup touché et c'était génial. Et bref, j'ai vraiment envie de continuer à faire ces trucs parce que c'est tellement bien. Il se passe tout le temps des choses bien quand on fait ce genre de trucs qu'il faut le cultiver, à mon avis. Et bref, le dernier ballsy move que j'ai fait cette semaine, pas des moindres, vraiment pas des moindres. Mais bon, ça, c'est... Ça, je pense que c'est un des plus gros unfair advantage que je cultive et que je développe. C'est que j'ai posté une vidéo, donc sur les réseaux, où je me montre plutôt vulnérable. Plutôt vulnérable parce que le hook, en gros, c'est j'ai un petit pénis. Et donc, je parle du pouvoir, de la vulnérabilité, de dire des choses sur soi, etc. Bref. Et voilà quoi, j'ai osé faire cette vidéo, etc. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de mal à poster la vidéo d'ailleurs, et j'ai un peu retrouvé la sensation que j'avais eue quand j'ai posté ma première vidéo sur YouTube, où ton cerveau, ça y est, pète les plombs, il se dit « Ok, je vais me faire rejeter par toute la tribu, les gens ils vont voir ça, ils vont se dire « Putain, Dali miskin, vas-y, on peut pas le fréquenter ce gars et tout, à cause de ça. » Enfin, bref, ton cerveau il part en steak, hein. Il a l'impression que tout va s'écrouler, mais c'est normal, c'est ancré en toi, il faut le comprendre, il faut l'accepter. C'est un mécanisme de survie qui est là pour te protéger. Et d'ailleurs, il faut bien comprendre que tous les jours, au quotidien, tu agis en fonction de ça. Tu es drivé par des mécanismes inconscients et on ne s'en rend pas compte. Et c'est beaucoup, beaucoup ça. Et tout ce que tu fais au quotidien, c'est une manière de maximiser à chaque fois ta sécurité et de te protéger. Et c'est la base de toutes nos actions et aussi des émotions qu'on a envie de ressentir. On est beaucoup, beaucoup drivé par ça. Et le rejet, avant, c'était ciao, en fait. C'était ciao. On disait, OK, bon, t'es plus dans la tribu, mon gars. Ça y est, t'es tout seul dans la savane. Bon, c'est mort. Tu vas plus réussir à chasser. Et puis peut-être qu'on va te tuer, on va te déshériter, machin, tac. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ça fonctionne plus du tout comme ça. Mais bon, on a encore le système nerveux qui est câblé, le cerveau, etc., qui est câblé comme ça. Et donc, c'est de manière très forte, on a l'impression que. Quand on fait un truc comme ça, une vidéo, on se montre hyper vulnérable, le monde va s'écrouler et qu'on va être rejeté et qu'on ne va pas survivre, etc., etc. Et au final, plus je le fais, plus je me rends compte que pas du tout. Et au contraire, c'est justement une force. Et la plupart des gens n'osent pas le faire. Et tant mieux. Hein. Moi, j'arrive de plus en plus à sortir de ces mécanismes un peu par défaut et d'autodéfense. C'est un travail de longue haleine, hein, qui met du temps. Mais c'est cool de pouvoir ensuite le mettre en pratique. Et donc, c'est pareil. Je l'ai confronté au monde. Et ça, il y a déjà plus de 100 000 personnes qui savent que j'ai un petit gag. C'est terrible, j'aurais jamais cru dire ça une fois dans ma vie. Mais bon, bref. Bonus, parlons du post LinkedIn donc, qui a fait pas mal de débats, je vais vous le dire, parce qu'il est assez cool. Moi, de base, quand je l'ai écrit, j'étais en mode pas mal, bonne idée ça. Alors, pourquoi je ne ferme pas ma porte à clé et devinette ? En terminale, j'avais un prof de SES qui était vraiment stylé. Le genre de prof que tu n'oublies pas, et un jour il me racontait une anecdote comme quoi « Je ne ferme jamais ma maison à clé, si un voleur veut y rentrer, il n'a qu'à passer par la porte, ça m'évitera de la réparer. » Intéressant, il est exact que les cambrioleurs n'attaquent pas une maison parce que le propriétaire ne ferme pas la porte. Et d'ailleurs, Socrate partage la même intuition. Je cite « Ce qui est scellé attire le voleur. Le cambrioleur néglige les maisons ouvertes. » Montaigne, de manière empirique, a constaté la même chose. Les maisons fortement gardées essuyaient plus d'attaques que la sienne. Donc, pour les intéressés, j'habite cette rue, MDR. Et devinette, pourquoi est-ce qu'investir 10% pourquoi tu peux avoir 10% de rendement en investissant 100K, mais pas en investissement 1 million ? Simple. Plus tu investis une part importante de ton capital, plus tu vas réduire au maximum les risques que tu prends. Autrement dit, les rendements d'échelle sont décroissants. Comme avec la maison et l'argent, plus on possède et plus l'aversion à la perte est forte. Je pense que la plupart des gens, quand ils lisent ça, ils adhèrent à cette vision et ils la trouvent très pertinente. Mais comme c'est bien, sur LinkedIn, on a des têtes. On a un gars qui s'appelle Benjamin Schall qui a commenté et qui a dit « Hâte de te voir raconter cette anecdote pétée à ton assurance. » Ça envoie des petits pics, hein, c'est LinkedIn. A priori, je ne connaissais pas trop, mais bon, ça envoie. Pas d'effraction, pas d'indemnisation. Et ensuite, PS, si tu as 10% sur 104, tu as aussi 10% sur 1 million. Le risque n'a rien à voir avec le capital, 3 petits points. Et donc, comment répondre à ça ? Déjà, je dois l'admettre. Il a en partie raison sur certains points. Déjà, il est vrai que quand tu n'as pas d'effraction chez toi, ton assurance ne prendra pas en compte le vol, ce qui est un petit peu dommage. Mais ce qui n'enlève en rien la pertinence de mon idée et de Socrate, qui est que, plus tu as tendance à protéger quelque chose et à lui accorder de l'importance, etc., plus ça va attirer déjà la curiosité, attirer le cambrioleur, etc. Et plus aussi toi, tu vas avoir une aversion à la perte qui est importante. Bon, ça, jusque-là, on s'entend. Maintenant, la deuxième chose, c'est que si tu as 10% sur 104, tu as aussi 10% sur 1 million, le risque n'a rien à voir avec le capital. Alors là, en fait, ce que j'ai voulu dire, c'est que, imaginons, aujourd'hui, là, tu gagnes 1 million d'euros. Tu sais, on dit souvent, OK, moi, il suffit que j'ai 1 million d'euros sur mon compte, je l'épargne à 10% par an, et ça y est, je fais 100 000 euros par an, je peux vivre tranquillement. Ok, super, ça marche, on est d'accord. Mais maintenant, je pense qu'on est tous d'accord pour dire quand même que quand on parle de capital personnel, si tu as seulement 1 million, tu ne vas pas investir cette somme de la même manière que si tu investissais un dixième de ces 1 million, c'est-à-dire 100K. Et c'est dans ce sens où plus tu investis une part importante de ton capital, et plus tu vas réduire au maximum les risques, parce que c'est un peu soit tout, soit rien. Et donc, encore une fois, tu as une aversion à la perte qui est plus forte, parce que ça représente plus en pourcentage une partie importante de ce que tu gagnes. Voilà, je suis, j'ai dit voilà, ça va. C'est, après, ça fait partie aussi du langage verbal, c'est normal. Je ne sais pas si j'ai beaucoup dit, parce que j'ai reçu un commentaire, d'ailleurs que je n'ai pas pris en considération, dans le sens où je n'ai pas vraiment fait attention sur cet épisode, mais évidemment, je vais essayer, qui m'a dit de bannir les mots cool et intéressant, parce que je les disais trop souvent, et c'est très inconscient. Donc j'en suis navré, si ça vous perturbe, désolé, ce n'est pas fait exprès. Il me semble qu'on arrive à la fin de ce podcast. Ah oui, il reste les petites recommandations quand même. J'ai un livre sympa que j'ai acheté là à Rome. D'ailleurs, je ne savais pas, il y a des librairies françaises, par exemple, à Rome. Et a priori, dans toutes les grandes villes, il y en a. Donc, c'est plutôt pratique si on veut acheter des livres et qu'on est à court de connaissances, ce qui était mon cas. Donc, le livre, c'est « La démocratie des crédules ». Je suis à la page 153. Ça va, j'ai bien avancé. Parce que je l'ai acheté il y a 3 jours, quoi. Et ça a été écrit par Gérald Bronner. C'est plutôt intéressant. Franchement, c'est pas mal. Donc, je vous le recommande, La démocratie des crédules. Ça parle de... attendez, je vous dis un truc. Cet essai vivant propose, en tenant compte de nombreux exemples, de répondre à toutes ces questions en montrant comment les conditions de notre vie contemporaine... Ok, non, ça paraît super chiant dit comme ça. Je vais pas vous dire « laissez tomber ». Ça parle de quoi ? C'est, il nous met en garde par rapport à la nouvelle manière dont circule l'information, tous les biais cognitifs qui s'accompagnent autour de ça. Par exemple, il y a un truc marquant, c'est les bulles de filtrage sur Google et que, par exemple, quand tu tapes des sujets genre aspartame, extraterrestre, etc., sur les 30 premières requêtes, à chaque fois, il y en a genre la majorité qui vont plutôt dans le sens de du complot, qui viennent montrer que c'est vrai, etc. Enfin bref. Très intéressant, il y a pas mal de biais cognitifs, il y a des jeux, il y a des petits tests et tout. Par exemple, l'expérience de Watson. Bref, vous allez voir, c'est pas mal. Donc, si ça vous intéresse, allez-y. C'est très cool. Il me semble que j'ai pas d'autres recommandations. Bah, les Infiltrés, franchement, c'était un film sympa que j'ai acheté là sur Canal à 4 euros. D'ailleurs, moi, j'aime bien ce mindset acheter des films. Parce que c'est bien beau d'avoir un abonnement Netflix, mais d'une part, bon, c'est pas le mien, c'est celui de Jean. Et ensuite, c'est que le contenu, le ratio signal-bruit, il est trop important pour moi sur le bruit. Je trouve qu'il y a trop de contenu de mauvaise qualité. Donc ça, c'est dommage. Il y a trop d'options, etc. Et ensuite, c'est que tu ne valorises pas le film de la même manière. Quand là, tu achètes un film avec ta thune, etc., tu t'engages déjà beaucoup plus fortement à le finir. Pareil avec les livres, d'ailleurs, notamment quand on les achète en physique. Et ça, je trouve que c'est... dans l'ensemble plutôt une bonne chose, même si je m'autorise encore à pas lire des livres, pas à finir des livres. Et donc là, c'est ce que j'ai fait pour ce film, Les Infiltrés, c'est un classique qui est plutôt pas mal, un peu violent mais sympa. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, c'était Dali pour vous servir, j'espère que le podcast vous aura plu, n'hésitez pas à me faire des retours, c'est important pour moi. Il faut, parce que même si c'est bien, parce que j'apprends à avoir ce jeu solo, et pas tout le temps de la gratification pour ce qu'on fait et des récompenses, ce qui est aussi important de cultiver. Bref, je m'arrête là, c'était Dali. On se voit, on s'écoute, on s'entend la semaine prochaine. Ciao !